Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Eugène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, acteur aujourd'hui, hein, puisque vous allez produire, ça sera ce week-end, un de vos textes, Lettre à mon dictateur, ici au théâtre Waouh à Aigle, où nous nous trouvons. Alors, vous m'avez fait grimper un petit peu, c'est d'où le souffle qu'on entend. On est dans les vignes, on a une vue plongeante sur le château, sur la ville, sur les Dents du Midi. Pourquoi on est là ?
C'est un lieu que j'aime bien. Il y a à côté une chapelle perdue dans les vignes qui est très discrètement construite. Elle n'est pas posée sur la colline, elle est derrière la colline. Et c'est un lieu très calme. C'est un petit miracle.
Elle se mérite, hein.
Voilà. Alors c'est une sœur.
Je suis encore sur le coup de ma montée. J'ai de façon dictatoriale, rien à voir avec le sujet qui va nous occuper, décrété qu'on n'enregistrerait pas à la montée.
Voilà.
Pour qu'on comprenne ce que je dis. Mais non, c'est une jolie petite montée dans les vignes et cette chapelle, en effet, que beaucoup de gens connaissent, j'en suis sûr, mais qui ne se voit pas de la plaine.
Hein. C'est la chapelle de l'Annunziata, l'Annonciation. C'est une sœur qui faisait un pèlerinage dans les années 80. Et puis, elle a fait un rêve disant que quelque chose d'important allait lui arriver. Puis elle prenait l'avion le lendemain. Elle pensait qu'elle allait avoir un accident d'avion. Elle a prié. Il ne s'est rien passé. Et puis en arrivant à l'hôtel, un ange lui a paru. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Un ange lui a paru qui dit qu'il fallait qu'il construise une maison pour le Seigneur après, pour qu'elle laisse une trace. Et puis, elle a eu l'idée de faire cette chapelle. Elle a mis 30 ans pour la construire. Elle évidemment n'était pas toute seule, mais il y a eu une fondation qui a été créée pour qu'il y ait de l'argent, pour les autorisations. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle est toute simple. Et à l'intérieur, c'est particulièrement paisible. Je suis déjà venu pour travailler, des fois pour écrire. Je fais du coworking avec Jésus, ça marche très bien. C'est très...
Vous m'avez dit, donc vous habitez notre Chablais, hein, vous habitez voilà. À Aigle aujourd'hui, mais depuis très peu de temps.
Depuis 2 ans.
Donc je décèle là la curiosité de l'écrivain qui aime bien les petites histoires et qui veut comprendre pourquoi il y a une chapelle au milieu des vignes.
Exactement, j'aime bien les histoires. Alors s'il y a une histoire qui va avec le bâtiment, ça m'intéresse.
Et donc vous avez fait vos petites recherches.
Ouais. Exact. Et généralement, on va sur un banc, on va dans un parc pour écrire ou pour manger un truc, mais on peut très bien aller dans une chapelle. Elle est vraiment...
J'ai entendu une ancienne interview de vous où déjà vous évoquiez l'écriture dans une église à Lausanne.
Exactement.
Le coworking avec Jésus, ça...
Ouais, je le continue ici. Il y en avait à Lausanne, c'est ça.
Et je ne veux pas entrer dans l'intime, mais c'est le signe d'une croyance.
C'est... Les lieux paisibles, il y en a vraiment partout, donc je cherche des lieux calmes. Et j'ai jamais prié dans cette chapelle, mais en même temps, en venant ici, c'est comme si, quand même, il y a un côté spirituel. On s'isole de la ville, du stress.
Si on suit l'histoire de cette Annunziata et qu'on part du principe que chacune de vos écritures dans des lieux sacrés vous ont permis de finir votre bouquin et donc d'arriver au bout de votre œuvre, vous auriez dû, vous aussi, construire des chapelles un peu partout pour remercier. Hein. Faut faire ça, monsieur.
Ce que je fais des bouquins, c'est peut-être des chapelles à moi.
chacun son hôtel, hein. Vous, c'est les bouquins, en effet. Ouais. Alors, on vous définit comme un écrivain d'origine roumaine, hein. Vous êtes suisse, d'origine roumaine, vous êtes arrivé dans ce pays à l'âge de 6 ans.
En 1975,
ouais. Et précisément, puisqu'on parle de Lettres à mon dictateur, c'était l'époque de Ceausescu.
Mm-hmm. Je suis parti de Bucarest, mes parents avaient fui une année avant. Puis au bout d'un an et demi, les autorités roumaines étaient d'accord de nous laisser partir, mon frère et moi. Puis on arrivait en avion de Bucarest à l'aéroport de Zurich. Donc on n'a pas à traverser des frontières illégalement. On était attendu en Suisse.
On reviendra sur le parcours étonnant de vos parents et le vôtre, et celui de votre frère. Alors moi, j'ai lu votre livre, je l'ai dégusté, hein, parce que c'est pas un effet de manche pour cette émission. Ceausescu a double titre et a une importance dans ma vie. D'abord, parce que j'ai plus ou moins le même âge que vous. Mm-hmm. Et la chute de Ceausescu en 1989, je crois que c'est le premier événement historique massif qui m'a fait prendre conscience que j'étais en train de voir un événement historique massif. Ça m'a beaucoup plus marqué, peut-être à cause du procès, de la mise à mort, etc., mais que la chute du mur, par exemple. J'avais 19 ans et voilà, je me souviens très bien, c'était la période de Noël, de ce moment où, haletant, on regardait ce qui se passait en Roumanie. Et puis, alors, autre chose... eh bien, il y a quelques années, évoqué Ceaușescu avec des jeunes collègues qui ont 25 ans et qui ne savaient pas qui c'était. Et là, grâce à lui, je me suis trouvé vieux pour la première fois face à des jeunes collègues. Alors évidemment, cette petite anecdote ne marque pas l'empreinte qu'il peut avoir sur vous, mais c'est la petite empreinte qu'il peut avoir sur moi.
Mais j'en parle dans le livre, c'est qu'il est tombé dans l'oubli. Ouais. On l'a oublié. Je me suis demandé, est-ce que je fais bien de lui écrire une lettre, publier ça ? D'en parler, est-ce que c'est bien de l'évoquer encore, est-ce qu'il faudrait l'abandonner dans l'oubli où il est tombé, ou quand même en parler. Moi j'en parle parce que c'est vraiment personnel, mon parcours lié à lui, et puis aussi quand même un dictateur qui est tellement amoureux de l'or. Je trouvais que ça parlait de beaucoup de dictateurs d'aujourd'hui, en tout cas d'autocrates, et qui ont leur fétiche autour de l'or, et... la volonté de construire quelque chose de gigantesque sans aucun contre-pouvoir, ben ouais, voilà, bah, ça fait très américain.
On n'a pas besoin de chercher beaucoup en ce moment pour trouver... mais d'ailleurs aussi dans la façon dont les populations reçoivent ça. Hein. On sent très bien dans votre livre à quel point les Roumains, majorité d'entre eux, en tout cas à l'époque, voyaient bien que c'était une guignolade, cette affaire, mais étaient pressurés par l'histoire, par le temps qui est devant eux et qui est dur et qui est brutal, sauvage, la police, la securitate, comme on l'appelait à l'époque. J'ai l'impression que plein d'Américains aujourd'hui se rendent compte que ce qui se passe est complètement fou, et pour autant, ils sont aussi un peu tétanisés, quoi.
Alors pendant un an ils l'étaient, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment réveillés, et puis on verra s'il y a des élections qui ont lieu, je finis par douter, normalement c'est en novembre, dans 10 mois, peut-être qu'il y aura des vrais changements, enfin, coup de balancier démocratique.
Les élections de mi-mandat aux États-Unis, on verra ça, mais enfin on va de surprise en surprise.
Donc, oui, avec Trump, oui.
Voilà, ça donne matière à des écritures futures, il faut pas en douter. Alors... pourquoi vous êtes venu vous installer dans le Chablais ?
Parce qu'on connaissait bien la région et on habitait à Grillon pendant longtemps. On a acheté à Grillon dans un ancien hôtel 1900 transformé en appartement 70 ans plus tard. Et puis on a vendu. Puis avec le pécule qu'on avait, on voulait acheter à Lausanne, mais c'est impossible. À Lausanne, on avait un 2,5 pièces avec ses 20% de fonds propres. Puis on a regardé dans le Chablais, puis les prix sont presque acceptables. Donc,
ce qu'on avait... regardez cette vue avec moi et dites-moi que ce n'est pas du Chablais par dépit.
Ah non, c'est du... justement.
Vous y êtes bien.
En plus, non seulement ce n'est pas très cher, mais c'est tellement bien. La vie à Aigle, entre vignes, la grande eau qui passe à côté, et puis c'est tellement bien desservi par les bus, les trains. En 10 minutes, on est au lac, en 30 minutes à Sion ou 30 minutes à Lausanne, c'est super. J'en parle à des Lausannois qui disent « Mais qu'est-ce que tu allais faire dans le Chablais ?» Et puis, vraiment, ils ne connaissent pas.
Les péteux de la ville.
Ouais, ils sont pénibles. à 20 minutes, il y a la médiathèque de Montet. C'est incroyable, cette médiathèque, la Casanova. Mais c'est un lieu extraordinaire qu'il n'y a pas du tout à Lausanne ou ailleurs. Donc, il y a de quoi faire en habitant dans le Chablais. Il faut un peu se promener, pas juste rester dans sa ville, dans sa commune. Si on part du principe que c'est un réseau et que c'est une grande région, là, ça devient génial, comme quoi.
Bon, vous le faites, en tout cas, vous promenez. Vous êtes venu vous promener avec votre fils, qui a 10 ans, qui est évoqué dans le livre, d'ailleurs. Il y a une affaire de transmission aussi, quand on écrit « Lettre à mon dictateur ». Tout le monde a envie de dire quelle a été sa vie à sa descendance, quoi.
Oui, je vous faisais un peu le bilan pour ma jeunesse et d'où je viens. Puis du coup, il pourra lire aussi et mieux comprendre. Il a vu le spectacle, il a à peu près tout compris. En tout cas, je l'ai bien sensibilisé à la démocratie, à la dictature. Mais ce que c'est que l'interruption de grossesse, ça, je n'en ai pas parlé. C'est un peu compliqué.
Alors ça, c'est un truc dont je n'osais pas parler, moi, parce que c'est un petit peu le twist du livre et du spectacle, sans doute. Ne dévoilons pas. Il y a en effet une affaire d'avortement et d'autorisation ou pas d'avortement dans votre livre, ce qui vous donne un rapport particulier à ce dictateur qui ne peut pas être que haï.
C'est ça.
Vous avez vécu un parcours migratoire quelques années après vos parents. Ben, y a déjà ce geste voilà, qu'on a souvent entendu dans les parcours de migration, quels qu'ils soient, de parents qui partent, qui laissent les enfants aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, etc. Quel geste terrifiant, hein.
Ouais. Je trouve qu'ils sont très courageux. Ou alors inconscients, je ne sais pas, mais... Moi, partir à l'autre bout de l'Europe en laissant mon fils derrière moi, en disant « bon, il me rejoindra, on trouvera une solution », jamais j'aurais fait un truc pareil. Je dis « il faut qu'on parte tous, qu'on trouve une solution et qu'on soit ensemble ». Et puis mes parents sont partis en pariant que quelques mois plus tard, on pourrait les rejoindre. C'était pas facile. Les autorités roumaines étaient très fâchées que mes parents soient partis. Mon père travaillait à l'Institut de physique atomique de Roumanie, donc c'était en gros un cerveau. Alors ça les embêtait beaucoup qu'il y ait une fuite de cerveau. Puis le paradoxe, c'est que les autorités suisses étaient d'accord avec le regroupement familial, mais c'était les Roumains qui ne voulaient pas.
Ouais, il y avait une logique perverse, enfin en tout cas un jeu pervers de dire « mais partez, par contre vos enfants restent ».
Ouais. Si vous voulez les revoir, voilà, rentrez en Roumanie, faites une année de prison, puis après vous serez autorisés à les embrasser. C'était ça leur première réponse.
Le discours.
Et puis ensuite, on a insisté.
Et partir tout de même, hein. Il y a de belles pages là-dessus sur votre maman, votre papa, qui ont dû passer ce cap de se dire partir tout de même. On ne sait pas si on pourra revenir, on ne sait pas s'ils pourront nous rejoindre. Alors, ils ne vous confiaient pas à l'assistance publique, hein, il y avait la famille.
Il y avait la famille, oui. Ils sont partis avec un visa touristique de 30 jours, une autorisation de voyager, puis ils devaient rentrer ensuite. En plus, leurs enfants étaient restés au pays. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Avec un visa touristique, on ne peut pas se transformer en réfugié politique. En Suisse, c'est interdit, ça. Soit on est réfugié dès la frontière, ou alors rien du tout.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans votre livre, dès les premières pages, c'est que vous êtes conscient que votre famille a bénéficié, en quelque sorte, hein, dans ce pays, de l'idéologie, quoi. C'est-à-dire qu'on accueillait volontiers les gens de l'Est qui prouvaient que le communisme ne marchait pas. Les réfugiés chiliens, à la même période, n'ont pas eu la même chance, quoi.
Non, exactement. Vraiment... Il y a eu le coup d'État au Chili, donc tous les socialistes sont partis, puisque Pinochet était d'extrême droite. Et puis eux, ils n'ont pas eu de place en Suisse. Ce n'était pas possible. Ouais. Beaucoup sont venus en France, mais pas en Suisse. Par contre...
Il y en a eu, mais ils ont eu la vie dure en Suisse.
Ah bon?
C'était difficile. Oui, il y en a eu, y compris dans le Chablais. Il y a des familles qui sont là depuis les années 70, mais qui ont fait profil très très bas.
Ouais. Par contre, la Suisse a accueilli en 1956 beaucoup de
Hongrois.
De Hongrois. Ouais. Justement, il y avait une écrivaine... Agota Christophe, qui a écrit 30 ans après Le Grand Cahier et quelques textes. Elle a appris le français, elle trouvait super dur l'intégration. Elle avait 18-19 ans, puis elle a travaillé dans une entreprise d'horlogerie. Elle faisait le même geste toute la journée, elle anglait des pièces. Et elle est devenue écrivaine, mais elle a fini par raconter tout ça, son parcours d'analphabète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout français quand elle est arrivée en Suisse.
Le chien, il vient de se rappeler à moi, et en général, il se rappelle toujours à moi quand on est à la fin de la première partie. Il est assez bien minuté, ce petit cello. On va en rester là donc, et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième.
À tout de suite.
Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà Eugène, on a quitté cette petite chapelle des Hauts d'Aigle, on est en train de redescendre gentiment. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai un assistant, hein, votre fils qui s'occupe du chien, c'est parfait, ça fait un souci de moins. Voilà, vous êtes arrivé à l'âge de 6 ans, je perçois quand même dans votre voix un petit accent, pas d'ici, pas fort, mais un peu étonnant. Est-ce que c'est le roumain ?
Bah, j'en sais rien.
À un moment donné dans le livre, je crois.
Ouais, je parle des accents, ça définit tellement nos identités. Et quand je suis en France, on m'avait dit que je n'avais pas l'accent suisse comme eux l'imaginaient, comme les Parisiens l'imaginaient, par exemple.
Ouais, il y a un Parisien... Comme ils
l'imaginent faux. Oui, justement. Bon. Ça ne nous indique rien. Mais ils trouvaient que j'avais l'accent belge rentré, c'est-à-dire que je cachais ma belgitude. Okay. Mais rien à voir. Et effectivement, je parle l'accent complètement vaudois, mais quand même, on trouve que je viens d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas comment ça s'est mélangé. La manière dont je prononce les mots, il y a peut-être un truc, c'est que, avant tout, je suis un ancien bègue. J'ai bégayé de 0 à 22 ans. Donc peut-être que le débit, le phrasé, il reste quelque chose du temps où je crochais sur les mots, sur certaines syllabes, ça ne passait pas.
Je l'ignorais, hein, mais c'est... D'ailleurs, je bégaye en vous répondant. C'est un travail de ne plus avoir ce
bégaiement
ou c'est un déclic ?
Il y a eu petit à petit, ce qui a aidé, c'est de faire du théâtre, beaucoup de jouer, faire des impros à Lausanne. Il y avait une école, Gérard Diegelmann, et je faisais des impros, des cours d'impro chaque semaine. Vers 16-17 ans, j'ai commencé. Et j'adorais ça, en fait. Bon, quand je joue un rôle, je bégaye pas. J'avais remarqué ça. Quand j'imite l'accent de quelqu'un, oh, quand je suis pas moi, je bégaye pas.
Je dis pas qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'en ai un en tête, c'est Vincent Lindon, hein, ouais. qui a exactement ce même discours. Bégaiement, dans une conversation normale, dès que le rôle est là, c'est fini. La scène, c'est un truc particulier pour vous. Hein. Je suis allé regarder un petit peu avant de lire vos textes devant un public sage. Vous avez pogoté sur les scènes romandes.
C'est vrai.
Quelle époque ?
J'ai dansé entre 90 et 94, même entre 88 et 94, dans
un groupe Saccharine,
qui s'appelait Saccharine. Donc il y avait une spécificité, c'est qu'il y avait un danseur avec eux, c'était moi.
Alors moi j'ai fait un petit retour en arrière, j'ai jamais été tellement pop musique, mais la chanson Clara, je m'en souviens, donc ça veut dire qu'il y a eu un moment de succès quand même avec ce groupe.
Ouais. La chanson était diffusée à la radio suisse romande et puis dans d'autres coins aussi. On avait gagné un concours des radios francophones, France Inter, Radio Suisse romande, Radio Canada. Puis la chanson a été diffusée durant tout un été. Puis on faisait des concerts avec cette chanson. Bon, du coup, à Lausanne, on était connus, oui. Et puis peut-être aussi en Suisse romande avec la radio.
Je me suis dit, voilà, deux carrières artistiques. Successives, celle de la musique et ensuite celle de la littérature, qui doivent se dérouler dans l'espace un peu confiné de la Suisse romande. Hein. C'est dur d'en sortir. Ce titre, Clara, moi, il m'a rappelé la Mano Negra, les Négresses Vertes, c'était cette époque-là. Voilà, il aurait pu faire un tube francophone suivi d'une carrière francophone. Mais la Suisse enferme un peu.
On a essayé, la chanson a été diffusée en France aussi, on avait trouvé un diffuseur et ça a assez bien marché, mais c'est quand même pas monté très haut dans les... puisqu'il y avait un hit parade. On était la 45e chanson la plus diffusée en France, entre Mick Jagger et Madonna.
Bah, mais c'est pas mal.
Je pense que Mick Jagger et Madonna à l'époque faisaient une grande baisse dans leur carrière, du coup on pouvait les tutoyer avec sa carine.
Bon, c'est des souvenirs en tout cas pour vous et pour nous, du coup, hein, puisqu'on vous a entendu à cette époque-là. Vous vous souvenez du déclic de l'écriture, le moment où vous vous êtes dit je passe du cahier d'écolier à l'envie de publier?
Je pense que ça devait être vers le gymnase, même peut-être avant. J'écrivais des dissertations à ma façon quand j'avais 15, 16 ans. On devait faire des explications de texte et des dissertations. Puis j'imaginais des histoires au lieu de disserter avec l'élément positif, négatif. J'ai inventé une histoire qui regroupait tous ces éléments. Personne ne m'avait dit de faire ça, puis je trouvais que c'était plus facile, plus intéressant. Des fois ça marchait, des fois c'était trop lourd, mes explications à travers la fiction. Et puis il y avait au gymnase un prof de français qui acceptait qu'on lui donne des textes libres. Il y avait des textes obligatoires à rendre, et puis des textes libres, c'est-à-dire on pouvait lui donner un texte, si c'est bien, il met une note, puis si c'est pas bien, on fait comme si c'est rien passé. Puis vraiment, c'était super, ça dédramatisait l'écriture.
Ce qu'on appelle un bon prof.
Ben, je trouvais que c'était... il restait ouvert, et puis dans les deux cas, il voulait bien discuter avec nous du texte, pourquoi il mettait une note, ou alors pourquoi il trouvait que c'était pas réussi.
Aujourd'hui, vous êtes écrivain, c'est votre boulot?
Ben, oui, c'est devenu mon boulot au début. J'avais de la peine à déclarer que je suis écrivain. J'avais Samuel Beckett en tête. Je me dis, mais je ne peux pas faire le même métier que Samuel Beckett.
Alors là, il faut qu'on s'arrête tout de suite, monsieur Eugène. C'est pas possible. À l'école, on apprend Beckett et Ionesco. En même temps, vous êtes roumain. Vous ne pouvez pas me parler de Beckett, enfin.
J'ai fait mon mémoire sur Samuel Beckett.
Ah, vous êtes un rebelle, en fait.
Ouais, il y a eu un moment très drôle dans ma vie. Le même jour, j'ai fait option théâtre au gymnase du Bugnon. Puis la prof est venue avec Samuel Beckett en attendant Godot. Alors j'ai joué un des personnages, c'était le sujet du jour. Et puis l'après-midi, on est allé avec l'option histoire de l'art du gymnase voir Giacometti à Giannada, la fondation Giannada. Il y avait une grande expo de Giacometti. Donc ça devait être, je ne sais pas moi, vers 86. Et j'avais trouvé que c'était le même monde. Beckett et puis les grandes sculptures filiformes avec des pieds énormes de Giacometti. Puis j'avais fait mon... Je me suis dit, tiens, et si je faisais un parallèle entre les deux pour mon mémoire de licence, comme on appelait à l'époque. Puis j'ai réalisé qu'ils ont travaillé ensemble. Giacometti a fait le décor de En attendant Godot une fois. Il a fait l'arbre, puisqu'il y a un arbre à la campagne, presque mort, avec 3-4 feuilles. Puis ils ont discuté longtemps sur la forme des branches Beckett et Giacometti.
Bon, dans la lettre à votre dictateur, lettre à mon dictateur, titre, vous vous adressez hein, à Nicolae Ceaușescu, le dictateur, oui. Et vous lui parlez de quelques grands noms de l'art roumain. Vous citez Ionesco, évidemment, vous en citez d'autres, vous ne citez pas Suran. Or, moi, dans vos lignes, dans vos mots, je trouve cette espèce d'humour désabusé de Suran. Pourquoi ?
En tout cas, je me sentais très proche de Ionesco dans l'absurde. Bon, il y a le gag, c'est que le nom de jeune fille de ma mère, c'est Ionesco.
Ah oui.
Elle s'appelle Hortensia Ionesco. Puis ils m'ont appelé Eugène, je ne sais pas ce qu'ils espéraient de moi. Incroyable cette histoire.
Ah ben, il y avait peut-être un lien, en effet.
Et alors, Suran, ouais, il est tellement puissant dans son ironie. Peut-être que si je le mettais, ma propre ironie allait s'étioler face à ce... Enfin, c'est un vrai monument de l'humour noir, de la phrase assassine. Donc, je n'ai cité d'autres...
Omission par respect.
Ouais, c'est presque peut-être. Ça.
Bon, en tout cas, il y a une phrase qui m'a de Suran qui m'a fait penser à... Enfin, plutôt votre texte m'a fait penser à cette phrase-là qui disait... c'est une phrase connue, hein, on n'habite pas une patrie, on habite une langue. Lui, comme vous, roumain, alors lui est probablement arrivé plus âgé que vous en France, mais écrivait en français. Hein, ça veut dire qu'il y a dans le geste de la migration une espèce de coupure, une espèce de coupure totale.
Ben moi, je me sens bien dans la langue française. J'ai remarqué que ce qui compte, c'est pas si je suis à l'autre bout du monde et puis je vois des plaques suisses. Je me dis pas, super, on va pouvoir parler de je ne sais pas quel politicien suisse ou coin de la Suisse, mais on aura peut-être des choses à se dire parce qu'on a le même humour, enfin s'il parle français justement, les mêmes références. Et donc, j'ai remarqué que je me sens à l'aise dans la langue dans laquelle je peux faire de l'humour.
Ah, ça vous avait changé ça. Moi, je vous ai entendu plusieurs fois dans les interviews dire je me sens à l'aise dans la langue où je peux mentir.
ça doit pas être faux non plus. Mais inventer des histoires, oui.
Inventer des histoires, oui. L'écriture, c'est une façon douce de pratiquer le mensonge, on va dire.
Ben ouais,
si
y
on
avait,
marque roman devant.
Il y avait cette phrase, il faut suivre sa pente, mais en montant. Il faudrait que je vois qui c'est qui l'a dite. Donc, suivre sa pente en montant. J'ai beaucoup de facilité à inventer des histoires. Et puis, si je suis ma pente en descendant, je deviens un menteur. C'est-à-dire un type en qui on ne peut pas avoir confiance, qui... un escroc, finalement. Mais en montant, j'invente des histoires, peut-être ça fait du bien à des gens qui les lisent. En tout cas, moi, oui, ça m'apporte. Alors voilà, je suis ma pente, qui est partir vers la fiction. Mais en montant, en développant toute une structure pour que l'histoire tienne, pour qu'il y ait un projet littéraire derrière chaque livre.
Quel est le... On arrive à la fin de cette émission, Eugène. Quel est aujourd'hui le rapport que vous avez avec la Roumanie ? Vous citez dans le livre plusieurs moments où vous êtes allé dans ce pays, adulte, hein, dans les derniers mois de la dictature d'ailleurs. Vous avez connu Bucarest sous la dictature pendant quelques jours. Puis ensuite, aujourd'hui, vous gardez un lien important avec ce pays.
Le livre a été traduit en roumain. Et j'ai été invité au mois de novembre pour présenter le livre en roumain et puis aussi en français. Il y avait des étudiants roumains qui apprenaient le français, donc ils tenaient à parler français avec moi, tout en sachant qu'on est tous roumains, toutes et tous. Enfin, il y avait beaucoup d'intérêt pour le livre. Et puis moi aussi, je leur ai posé la question, quel est votre rapport avec Ceaușescu ? Vous en parlez encore ? Puis il y avait plein de réactions intéressantes. C'était super de discuter avec des gens qui avaient moins de 20 ans de cette histoire-là. Et j'y retourne, je crois, au mois de mars. Il y a une librairie francophone qui voudrait m'inviter. Moi et d'autres auteurs et autrices de Suisse romande qui ont un lien avec la Roumanie, comme Raluca Antonescu, par exemple. Et j'ai l'impression que ce livre m'apporte, il me fait retourner au pays. Et puis moi, mon idée, c'était quand même de, si j'écris une lettre à Ceaușescu, c'est d'aller déposer le livre traduit sur sa tombe. Et je sens que ça va être possible, puisque le livre existe. Il est traduit maintenant.
Il faut en mettre quelques-uns alors, parce que je pense que ça va faire marrer pas mal de, pas mal de visiteurs du cimetière. Encore que ceux qui vont à sa tombe, ça peut être des nostalgiques. Hein, ça vous le dites aussi dans votre...
Ouais.
C'est plutôt des nostalgiques en effet. On arrive à la fin de cette émission, Eugène, merci infiniment. Je rappelle donc que Lettre à mon dictateur est devenu un spectacle que vous l'interprétez pour ce qui concerne notre région ici au Théâtre Waouh à Aigle.
Et puis aussi, j'irai à Eviona dans quelques semaines, au Dé.
Au Théâtre du Dé à Eviona. Donc les dates d'Aigle, c'est ce week-end. Eviona, je ne sais pas, dans quelques semaines.
Ouais.
Voilà, Lettre à mon dictateur dans quelques semaines sur Google. Et on trouvera les dates pour Eviona. Merci à vous.
Merci pour l'invitation.